La parole des contes avec Anne Wang.
Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. La semaine dernière, nous avions vu, enfin, façon de parler, parce que à la radio, moi je parle et vous, vous entendez, nous ne voyons rien en commun. Moi, je vois des micros, un Arthur dans la cage de verre, et vous, dans votre coquet intérieur, vous voyez des plantes vertes, des tables, des fauteuils. Donc, dans la semaine dernière, je vous avais parlé du conte type 706 intitulé « La fille aux mains coupées ». Je vous avais dit que nous verrions quatre versions et je vous avais lu celle de Paul Delarue du conte populaire français, la version alsacienne intitulée « Marianette ». Une femme tenant une auberge avait épousé un garde forestier. Ils avaient eu cette charmante Marianette prude et sage. Le père meurt, la veuve joyeuse s'amuse avec les messieurs de l'auberge. La jeune fille en grandissant embellit. La jalousie s'empare de la mère qui promet le mariage à un des soupirants. Si il tue la mignonnette, elle veut les mains pour preuve. Et donc il lui coupe les mains dans la forêt et lui laissera la vie sauve. Elle erre dans la forêt. La forêt est un symbole de paix intérieure, contemplation, ou au contraire retour à la bestialité par perte de repères, ou symbole de l'inconscient. Celui qui aurait peur de la forêt aurait peur des résurgences de l'inconscient. La version chinoise qui va suivre, elle n'ira pas dans la forêt, après avoir perdu ses mains. Son mari ne partira pas à la guerre comme dans les versions européennes, mais il partira à la capitale pour passer les concours de mandarinat. Place au texte. Donc, voici le texte de Blanche Xia-Ping-Chu dans éditions Corti, Bambou Vert et le numéro 40, c'est « La fille aux mains coupées ». Béalaha était la demoiselle la plus belle de son village. Avec ses yeux en amande, ses sourcils fins et alignés et ses jolies fossettes, quiconque la voyait succombait à son charme. Béalaha était aussi la demoiselle la plus habile du village. Les motifs qu'elle brodait, fleurs, arbres et animaux, étaient tellement vivants que quiconque les voyait s'en émerveillait. Béalaha était aussi la demoiselle la plus érudite du village. Elle aimait apprendre depuis son jeune âge la calligraphie, la peinture et par voie de conséquence la poésie, car il n'y a pas de peinture sans poème. Elle savait tout faire avec brio. Or, la vie n'est pas toujours juste. Gentille comme elle l'était, elle avait pourtant souffert. Elle avait perdu sa mère pendant sa tendre enfance. Elle n'avait ni frère ni sœur. Son père, qui travaillait loin d'elle dans la ville de Shenyang, ne pouvait rentrer qu'une ou deux fois par an. Elle vivait avec sa belle-mère, dont le nom de jeune fille était Chi. Veuve de son premier mariage, elle s'était remariée avec le père de Béalaha et on l'appelait toujours la veuve Chi. C'était une femme paresseuse qui bavassait à longueur de journée chez les voisins en fumant sa pipe d'opium. Comme son mari était absent, c'était elle la maîtresse de maison. Et elle décidait de tout. La famille avait hérité de suffisamment de biens pour satisfaire ses besoins. Puisque la maîtresse était oisive, tout le ménage, que ce soit le plus lourd, le plus minutieux ou le plus salissant, était à la charge de Béalaha. Si la belle-mère, en rentrant le soir, trouvait que le ménage n'avait pas été fait à sa convenance, elle frappait Bialara à la tête de sa longue pipe à opium. Bialara grandit ainsi, maltraitée. N'ayant pas de fils, le père était en quête d'un gendre pour aider à entretenir la famille après sa retraite. À peine avait-il émis ce souhait que sa femme eut tout de suite une idée. Elle avait toujours eu peur que son futur gendre ne se soumette pas à son pouvoir. Elle pensa donc à son neveu, prénommé Alu, qui était quelqu'un de tout à fait différent de Bialara. Dans les alentours, il avait la réputation d'être un bandit. Et il ne savait rien faire d'autre que de manipuler le gourdin et le couteau avec lesquels il faisait sa loi. Même les gendarmes ne pouvaient rien contre lui. Il avait deux penchants, le tripot et le bordel. Il y avait gaspillé à peu près tous les biens dont il avait hérité. Alu rendait souvent visite à sa tante, car il convoitait non seulement la richesse de la maison, mais aussi la belle Bialara. Mais il avait beau lui faire la cour, Bialara, fille chaste, ne laissait aucun espoir à ce voyou. L'idée d'être pris comme gendre correspondait parfaitement au désir de Alu. Quand le père rentra pour le nouvel an chinois, sa femme profita des conversations sur l'oreiller pour le convaincre de conclure cette alliance. Il avait entendu parler de la mauvaise réputation d'Alu, mais sa femme n'arrêtait pas de chanter ses louanges avec son front large et bombé, son menton carré et charnu, la physionomie parfaite d'un homme talentueux. Alu, profitant de la présence du père, lui rendait visite régulièrement avec des cadeaux coûteux et le flattait si servilement que le père ne pouvait plus distinguer le bien du mal, et ce d'autant plus qu'il ne dirigeait plus les affaires de la maison depuis longtemps. Il finit par accepter l'idée de prendre Alu comme gendre. Bialara eut vent de l'affaire. Un jour où la belle-mère était absente, elle s'agenouilla devant son père. « Père, Alu est un bandit notoire dans notre village. Comment pourrais-je épouser un homme comme lui? Si vous acceptez ce mariage, je préfère mourir. » Le vieil homme n'avait qu'un seul enfant. Il ne pouvait évidemment pas la faire mourir. Il répondit « Lève-toi, mon enfant. Si tu ne veux pas de cet homme, j'en chercherai un autre pour toi. » Hélas, comme on dit, les murs ont des oreilles. Alu, faisant sa visite de routine pour amadouer le vieil homme, était devant la porte au moment de cette conversation. Fou de rage, il retourna chez lui et ne revint plus. Depuis, il cherchait à se venger par tous les moyens. C'est ainsi que, quand sa tante vint chez lui, ils montèrent ensemble une machination. Ils firent envoyer un message à Bialara. « Votre belle-mère est souffrante, venez vite pour prendre soin d'elle. » Entre les deux maisons, il y avait 7 lieues. Bialara partit au petit matin et arriva à la tombée de la nuit. Elle frappa au grand portail à plusieurs reprises, mais personne ne lui répondit. Elle vit, à travers la fente du portail, que la maison était bien éclairée. Elle grimpa sur le mur pour appeler. Soudain, un couteau sortit, on ne sait d'où, et lui trancha les mains. Ensuite, on entendit crier « Au voleur ! Arrêtez le voleur !» Des gens sortirent en courant de la maison, chacun tenant une lanterne ou une torche à la main. Alu, suivi de ses sbires, fit semblant d'être étonné en voyant Bialara par terre. « Ah, c'est ma cousine ! Comment ça se fait que tu viennes voler ici ?» La belle-mère arriva en pleurnichant, mais sans une goutte de larmes. « Tu m'as couverte de honte. Pour un petit vol, tu as perdu les mains. Comment vais-je faire maintenant avec une fille handicapée ?» après quoi elle rentra immédiatement dans la cour, les gens se dispersèrent et Alu ferma le portail dans la foulée. Les mains tranchées d'un coup sec, Bialaha s'évanouit de douleur. Elle revint bientôt à elle, mais retomba de nouveau évanouie. Elle passa ainsi la nuit entière par terre, devant la maison d'Alu. Au lever du soleil, elle reprit conscience et se releva. Elle comprit que c'était là la vengeance de son sordide cousin qui avait comploté avec sa belle-mère pour l'expulser de la maison. Accusée de vol, elle ne pouvait plus rentrer dans son village. D'autant plus qu'elle n'avait plus de main et qu'elle savait que sa belle-mère ne manquerait pas de lui infliger d'autres supplices. Elle erra, sans but. Arrivant devant une grande maison, elle vit un abricotier sous lequel quelques fruits mûrs étaient tombés à terre. Sans ses mains, il lui était impossible de les ramasser. Mais la faim la tenaillait et elle tenta d'en attraper un avec la bouche. Au moment même où elle avait réussi à en saisir un jeune lettré sortit de la maison. Voyant une demoiselle agenouillée, coiffée d'une natte et en tenue mandchoue, mais sans main et couverte de sang, le jeune lettré demanda gentiment « Mademoiselle, je peux ramasser des abricots pour vous si vous le souhaitez. » Bialaha leva la tête. À sa vue, le jeune homme s'étonna de sa beauté. « Qu'elle est belle ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Il eut grande pitié d'elle. Pensant que cet homme était le propriétaire de la maison, Bialaha se leva et lui fit une révérence. « Je vous prie de bien vouloir m'excuser et de m'accorder quelques abricots. »« Autant qu'il vous plaira. Suivez-moi dans la maison. » Voyant que ce jeune homme avait l'air sincère, Bialaha le suivit. Le jeune homme soigna ses mains amputées et appliqua ensuite un bandage autour des moignons. Puis il l'accompagna dans le pavillon de l'Est et la confia à la femme de son frère. « Belle-sœur, sers le repas à cette demoiselle. » Ce jeune homme s'appelait Bayantu. Issu d'une bonne famille des huit bannières, il vivait avec ses parents, son frère et sa belle-sœur. Il étudiait assidûment pour passer les concours mandarinaux. La belle-sœur de Bayantu nourrit Bialaha, cuillère après cuillère, et tout en lui changeant son vêtement couvert de sang, elle la questionna sur son terrible destin. Bialaha raconta toute l'histoire. La belle-sœur poussa un mince soupir en l'écoutant, et à la fin elle demanda « Mademoiselle, où pensez-vous aller maintenant ?» Bialaha répondit en pleurant « Mais je n'ai nulle part où aller maintenant. » Si cela ne vous déplaît pas, vous pouvez rester avec moi. Je vais aller demander à mes beaux-parents. » Les parents de Bayantu dirent tous deux, « Elle peut rester avec nous. La pauvre fille n'a plus de famille. Dans cette maison, nous ne manquons ni de nourriture ni d'argent. Nous devons l'aider. » À partir de ce jour-là, Bialaha vécut avec la famille de Bayantu. Des servantes la nourrissaient, la coiffaient et lui faisaient sa toilette. Elle passait souvent la journée à étudier. Quand elle avait des idées, la mère ou la belle-sœur de Bayantu écrivait à sa place. Ses écrits aidaient beaucoup Bayantu dans sa préparation des concours. Toute la famille était contente. Alors qu'il avait déjà atteint l'âge de 20 ans, Bayantu n'avait toujours pas de promise. Des familles riches et puissantes vinrent proposer leurs filles. Les parents ne voulaient pas prendre de décision sans avoir l'avis de leur fils. Mais chaque fois qu'on le lui demandait, il hochait la tête. Non. Sa belle-sœur avait lu dans ses pensées. « Mon frère, tu refuses toutes les filles, qu'elles soient belles ou laides, riches ou pauvres. Ne serait-ce pas que l'élu de ton cœur est la fille sans main qui vit sous notre toit ?» Bayantu rougit immédiatement. Il baissa la tête sans dire un mot. Belle et rayonnante, Bialora était aussi intelligente et érudite. Toute la famille l'appréciait. Bien qu'elle soit infirme, ils dirent tous « Ce n'est pas grave, puisque nous avons des servantes à son service. C'est elle qui sera notre bru. » C'est ainsi que Bialara et Bayantu se marièrent et menèrent une vie joyeuse et amoureuse. Un garçon naquit 2 ans après leur union. Bialara était non seulement une bonne épouse, mais également une excellente collaboratrice pour son mari. Avec son aide, Bayantu progressait considérablement jour après jour. Leur enfant eut 2 ans. Le temps était venu pour Bayantu de partir à la capitale pour passer les concours mandarinaux. Avant son départ, il dit à ses parents « J'ai 2 choses qui me tiennent à cœur. D'abord, c'est vous, mes chers parents. Prenez surtout soin de vous-même. Ensuite, c'est ma femme, infirme. Je vous prie de prendre soin d'elle. Sois rassurée, va, ne te fais pas de soucis pour nous. Et quel que soit le résultat, rentre le plus vite possible. » Bayantu prit congé de sa famille et se mit en route. Après de longues années de persévérance, il obtint sa récompense. Il finit lauréat des concours. Autrefois, le lauréat devait littéralement crier victoire pour que l'obtention du titre soit rendue publique. La première chose à faire était de retourner dans sa ville natale pour honorer ses ancêtres. Avant de quitter la capitale, se souciant de sa famille, Bayantu envoya sans attendre une lettre à ses parents pour leur annoncer l'excellente nouvelle. Le messager partit sans tarder. Une nuit, il se logea dans une petite auberge. Il déposa sa besace sur le comptoir et commanda de quoi manger et boire. Fatigué, surtout après avoir bu un verre de trop, il s'endormit profondément sur le comptoir. Or, il se trouva par hasard que les propriétaires de l'auberge n'étaient autres que les parents de Bialara. En effet, après avoir persécuté la pauvre fille, Alu et la belle-mère avaient usurpé tous les biens du vieil homme. Mais les beaux jours ne furent que de courte durée. Un incendie ravagea tout, rien ne resta, même pas une tuile du toit. Alu abandonna sa tente et disparut. Le père de Bialara, au terme de ses fonctions, retourna au village et ouvrit avec sa femme cette auberge afin d'assurer leur subsistance. La belle-mère, croyant que dans la besace du messager étaient cachés de l'or et de l'argent, l'ouvrit pendant son sommeil. Mais elle n'y trouva qu'une lettre, issue d'une bonne famille mandchoue. Elle savait lire et écrire. Elle était persuadée que sa belle-fille était morte après lui avoir coupé les mains. Mais d'après cette lettre, elle était bel et bien vivante. Et de surcroît, elle était devenue la femme d'un lauréat des concours. De peur que Bialara demande à son mari de la venger un jour, elle écrivit une autre lettre, lui faisant dire qu'en tant que lauréat, avoir une femme sans main était déshonorant. Il demandait à son épouse de quitter immédiatement la maison avant qu'il ne la répudie. Le messager cria victoire tout le long du chemin jusqu'à ce qu'il arrive chez Bayantu. Toute la famille était folle de joie en apprenant la nouvelle. Les parents ouvrirent la lettre. Leur joie disparut, séance tenante. Tout le monde la lut. Ils se regardèrent en silence, l'air perdu. Quant à Bialara, elle dit en pleurant « Ne vous chagrinez pas pour moi, tout cela n'est pas faux. Combien d'hommes dans ce monde peuvent réussir comme lui ? Il est entré dans l'administration impériale et arrivera un jour à une place de dirigeant. Il lui faut une femme saine de corps. Sans main, je ne suis pas digne d'être son épouse. Je dois m'en aller. » Le frère et sa femme voulurent la retenir. « Tu es invalide, où vas-tu aller ? » ?»« La vie nous donne toujours une seconde chance. » je m'en vais. » Rien n'y fit. La décision était prise. La famille ne put que la laisser partir. Sa belle-sœur lui avait préparé des galettes. Pour faciliter leur ingestion, elle les façonna en forme de disque qu'elle enfila sur un fil et lui mit ce collier autour du cou. Elle lui dit « Quand tu auras fini les galettes du côté de ta poitrine, si tu n'arrives pas à attraper celles qui sont dans ton dos et sur les côtés, demande à de braves gens de t'aider à retourner le collier. » Quand Bialaha se leva pour partir, son enfant se mit à pleurer et refusa de la lâcher. Elle pleura aussi. « Je ne voudrais pas vous séparer de votre petit-fils. Mais il est encore trop jeune pour quitter sa mère. Je l'emmènerai et vous le rendrai quand il sera adulte. » Les grands-parents n'auraient pas voulu qu'elle parte avec leur petit-fils. Mais répudiée et expulsée, elle était dans un état pitoyable. Pouvait-on en plus la priver de son enfant ? Faute de mieux, ils les laissèrent partir tous les deux. Elle remercia ses beaux-parents pour la grâce accordée et son beau-frère et sa belle-sœur pour leur affection fraternelle. Avec les galettes autour du cou et son enfant sur le dos, elle se mit en route. Comme le jour où elle avait perdu ses mains, elle errait sans savoir où aller. Quand ils avaient faim, ils mangeaient les galettes. Elle, la partie devant, et son enfant, la partie derrière. Elle marcha ainsi, on ne sait combien de jours, jusqu'à ce que l'enfant, ayant mangé toutes les galettes de son côté, se mit à pleurer de faim. À ce moment précis, un vieillard, à la barbe blanche, vint à leur rencontre. Il aida la jeune femme à tourner le collier de galettes et poussa un long soupir. « Pauvre femme en errance ! J'ai trois petites chaumières inoccupées qui se trouvent près d'ici. Bien qu'elles soient en ruine, vous pourriez au moins y avoir un abri. Si cela ne vous déplaît pas, allez-vous y installer. » Les chaumières se trouvaient de l'autre côté d'un ruisseau. Il n'y avait pas de pont pour le traverser. Il fallait marcher sur les rochers, affleurant l'eau. Bialaha mit ses pieds l'un après l'autre sur les pierres moussues, mais perdant l'équilibre, elle glissa et tomba dans le torrent. Dès que ses moignons furent au contact de l'eau, ses mains se régénérèrent miraculeusement. C'était exactement les mains qu'elle avait perdues. Elle n'en croyait pas ses yeux, se dit qu'il s'agissait d'un rêve, mais elle s'aperçut que le dé à coudre qu'elle portait toujours auparavant était bel et bien sur son doigt. Sautant de joie, elle traversa vivement le ruisseau et s'installa avec son enfant dans les chaumières. Parlons de notre Bayantou. Le président du jury, voyant qu'il était jeune, beau et talentueux, voulut lui donner la main de sa fille. Mais Bayantou ne pensait qu'à son épouse et les conduisit poliment. « Je vous remercie de votre estime et je ne l'oublierai jamais. Mais je suis déjà mariée et mon épouse est infirme. Elle attend mon retour. Je dois prendre congé de vous. » Le président vit que c'était un homme fidèle et ne l'en loua que davantage. Il le considéra comme son propre fils et ne parla plus de mariage. Bayantou se mit en route avec impatience. Sans trêve ni repos, il arriva enfin devant sa maison. Mais il n'y avait pas d'amis, ni de parents proches, rassemblés pour le féliciter, contrairement à ce qu'il était en droit d'attendre. Son père avait refusé toutes les visites. Bayantou entra dans la maison et s'aperçut que ses parents, visage fermé, ne lui adressait pas la parole. Son frère et sa belle-sœur, à sa vue, quittèrent la pièce, sans le saluer. Bayantou se prosterna devant ses parents et demanda « Père, mère, j'ai réussi le concours et emporté le titre de lauréat. Tout cela, grâce à vous, aujourd'hui devrait être un jour de fête. Pourquoi avez-vous l'air fâché ?» Son père lui jeta la lettre à la figure. « Oses-tu me le demander ? As-tu oublié ce que tu as fait ? » Dès qu'il vit la lettre, Bayantou s'écria « Mais ce n'est pas mon écriture !» Le père relut attentivement la lettre et remarqua, en effet, une nette différence par rapport à l'écriture habituelle de son fils. Visiblement, ce n'était pas lui qui l'avait rédigé. Il releva son fils et lui dit « Lève-toi vite, c'est à tort que je t'ai fait ces reproches. » La belle-sœur, qui écoutait derrière la porte, entra à la hâte. « Va chercher ta femme et ton enfant !» Malgré la fatigue de son long voyage, il monta immédiatement sur son cheval et partit au galop à la recherche de sa bien-aimée. Le quatrième jour, la pluie se mit à tomber. Il avisa une petite chaumière au bord de la route. Il y courut et frappa à la porte. « Maître de la maison, permettez-moi de me mettre à l'abri de la pluie !» Bialara ouvrit la porte. Devant elle se tenait Bayantou, son mari, qu'elle aimait tant et qu'elle ne pouvait pas oublier. Elle avait tant de choses à lui raconter depuis leur séparation, mais elle recula de quelques pas et lui déclara « Monseigneur, je vous prie de quitter ce lieu. Je suis votre femme, répudiée. Il vaut mieux éviter tout contact entre nous. » Bayantou reconnut également sa femme, bien qu'elle eût des mains. Anxieux et joyeux à la fois, il lui expliqua ce qu'il s'était passé et finit par lui dire « Ma chère épouse, je t'ai cherchée partout, rentre avec moi !» Son enfant, à son côté, insista « Maman, rentrons à la maison !» Bayantou prit son enfant dans les bras et s'en retourna avec sa femme. Vous pouvez imaginer la joie de leur retrouvaille après cette longue, longue séparation. Bayantou retrouva le messager. Il comprit que la personne qui avait remanié la lettre était la belle-mère de Bialara. Apprenant que son père était encore en vie, Bialara partit avec son mari pour lui rendre visite dans son auberge. La belle-mère prit peur. Craignant d'être confondue, elle se jeta contre la colonne en pierre et mourut. Le sordide alu fut également arrêté. Tous les villageois applaudirent de joie en disant « Le bien et le mal ont à la fin leur récompense. » Et un dimanche prochain, si vous le voulez bien, chers auditeurs et chères auditrices, et rien ne vaut la présence pour que le conte circule dans une parole partagée adressée à un destinataire au corps physique présent. Aussi, ne manquez pas de venir me voir et m'écouter en chair et en os, samedi 28 mai, à Saint-Martin-de-Londres à 10h30 ou 17h30, ou dimanche 29 mai, aux mêmes horaires, au village d'Ematel, pour deux balades médiévales, poétiques et contées, en costumes et musique. Merci de m'avoir écoutée.